Chapitre 15, scène à trois, un roi et une reine. André commença de reprendre ses sens sans savoir qui lui portait secours, mais instinctivement elle comprit que l'on venait à son aide. Son corps se redressa, ses mains s'accrochèrent à l'appui inespéré qui s'offrait à elle, mais son esprit ne ressuscita point avec le corps, il demeura vacillant, abasourdi, somnolent pendant quelques minutes. Après avoir tenté de la rappeler à la vie physique, M. de Charny s'empressait de la rappeler à la vie morale, mais il n'étreignait qu'une folie terrible et concentrée. Enfin, les yeux ouverts mais hagards se fixèrent sur lui, et avec un reste de délire, sans reconnaître cet homme qui la soutenait, André jeta un cri et le repoussa durement. Pendant tout ce temps, la reine détourna la vue. Elle, femme, elle, dont la mission eût été être de consoler, de fortifier cette femme, elle l'abandonnait. Charny enleva André entre ses bras vigoureux, malgré la défense qu'elle essayait d'opposer, et se retournant vers la reine, toujours raide et glacée, « Pardon, madame, dit-il, mais il est sans aucun doute arrivé quelque chose d'extraordinaire. Madame de Charny n'a pas l'habitude de s'évanouir, et c'est la première fois aujourd'hui que je la vois privée de connaissance. » Il faut donc qu'elle souffre beaucoup, dit la reine, revenant à cette sourde idée qu'André avait entendue toute la conversation. Oui, sans doute elle souffre, répondit le comte, et c'est pour cela que je demanderai à votre majesté la permission de la faire transporter jusqu'à son appartement. Elle a besoin du soin de ses femmes. Faites, dit la reine, en allongeant la main vers une sonnette. Mais au tintement du cuivre, André se raidit et, dans son délire, s'écria « Oh, Gilbert, ce Gilbert !» À ce nom, la reine tressaillit, et le comte étonné déposa sa femme sur un sofa. En ce moment, le serviteur appelé par le bruit de la sonnette entra. « Rien, dit la reine, en lui faisant signe de la main de s'éloigner. » Puis, restés seuls, le comte et la reine regardèrent. André avait refermé les yeux et paraissait en proie à une nouvelle crise. Monsieur de Charny, à genoux près du sofa, la maintenait sur le meuble. « Gilbert, répéta la reine, qu'est-ce que ce nom? Il faudrait s'informer. »« Je crois que je le connais, dit Marie-Antoinette, je crois que ce n'est pas la première fois que j'entends prononcer ce nom à la comtesse. » Mais comme si elle eût été menacée par ce souvenir de la reine et que cette menace fût venue la chercher au milieu de ses convulsions, André ouvrit les yeux, étendit les bras vers le ciel et, faisant un effort, se leva, tout debout. Son premier regard, regard intelligent cette fois, se porta sur M. de Charny, qu'elle reconnut et qu'elle enveloppa d'une flamme caressante. Et puis, comme si cette manifestation involontaire de sa pensée eût été indigne de son âme de spartiate, André détourna les yeux et aperçut la reine. Elle s'inclina aussitôt. « Oh mon Dieu, qu'avez-vous donc, madame ? » dit monsieur de Charny. « Vous m'avez épouvantée, vous si forte, vous si brave, en proie à un pareil anouissement. » « Monsieur, dit-elle, il se passe des choses si terribles à Paris que lorsque les hommes tremblent, les femmes peuvent bien s'évanouir. Vous avez quitté Paris, oh, vous avez bien fait. »« Grand Dieu, comtesse, dit Charny, avec le ton du doute, serait-ce donc pour moi que vous auriez fait tout ce mal ?» André regarda encore une fois son mari et la reine, mais ne répondit pas. « Mais certainement, cela est, comte, pourquoi en douteriez-vous » répondit Marie-Antoinette. « Madame la comtesse n'est point reine, elle a le droit d'avoir peur pour son mari. » Charny sentit la jalousie cachée sous cette phrase. « Oh, madame, dit-il, je suis bien sûr que la comtesse a encore plus peur pour sa souveraine que pour moi. » « Mais enfin, demanda Marie-Antoinette, pourquoi et comment vous avons-nous trouvé évanoui dans ce cabinet, comtesse ?» « Oh, cela me serait impossible à raconter, madame, je l'ignore moi-même, mais dans cette vie de fatigue et de terreur, d'émotion que nous menons depuis 3 jours, rien de plus naturel, ce me semble, que l'évanouissement d'une femme. C'est vrai, murmura la reine, s'apercevant qu'André ne voulait point être forcé dans sa retraite. Mais, reprit André à son tour avec le calme étrange qui ne la quittait plus dès qu'elle était redevenue maîtresse de sa volonté et qui était d'autant plus embarrassant dans les circonstances difficiles qu'on voyait facilement qu'il n'était qu'affectation et couvrait des sentiments tout à fait humains, mais Votre Majesté elle-même a les yeux tout humides. Et cette fois encore, le comte crut retrouver dans les paroles de sa femme cet accent ironique qu'il avait remarqué un instant auparavant dans les paroles de la reine. « Madame, dit-il à André, avec une légère sévérité à laquelle on sentait que sa voix n'était pas accoutumée, il n'est pas étonnant que la reine ne sente des pleurs dans ses yeux. La reine aime son peuple et le sang du peuple a coulé. » Dieu a épargné heureusement le vôtre, monsieur, dit André, toujours aussi froide, toujours aussi impénétrable. Oui, mais ce n'est pas de Sa Majesté qu'il s'agit, madame, c'est de vous. Revenons donc à vous, la reine le permet. Marie-Antoinette fit un signe de tête en manière d'adhésion. Vous avez eu peur, n'est-ce pas?
Moi?
Vous avez souffert, ne le niez pas, il vous est arrivé un accident, lequel je n'en sais rien, mais vous allez nous le dire.
« Vous vous trompez, monsieur.
Vous avez eu à vous plaindre de quelqu'un, d'un homme. »
André pâlit.
« Je n'ai eu à me plaindre de personne, monsieur. Je viens de chez le roi. »«
Directement ?»«
Directement. Sa Majesté peut s'informer. »« S'il en est ainsi, dit Marie-Antoinette, ce serait la comtesse qui aurait raison. Le roi l'aime trop, et sait que de mon côté, je lui porte une trop vive affection pour l'avoir désobligé en quelque chose que ce soit. »
« Mais, dit Charny en insistant, vous avez prononcé un nom. »«
Un nom ?»«
Oui, en revenant à vous. »
André regarda la reine, comme pour en appeler à elle, mais soit que la reine ne comprit point ou ne voulut point la comprendre.
« Oui, dit-elle, vous avez prononcé le nom de Gilbert. »«
Gilbert, j'ai prononcé le nom de Gilbert !» s'écria André avec un accent tellement empreint d'épouvante que le comte fut plus ému de ce cri qu'il ne l'avait été de l'évanouissement.
« Oui, fit-il, vous avez prononcé ce nom. »«
Ah, vraiment, reprit André, c'est étrange. » Et peu à peu, comme le ciel se referme après l'éclair, la physionomie de la jeune femme, si violemment altérée à ce nom fatal, reprit sa sérénité, et à peine quelques muscles de ce beau visage continuèrent-ils à tressaillir imperceptiblement, comme s'évanouissent à l'horizon les dernières lueurs de la tempête.
« Gilbert, répéta-t-elle, je ne sais. »«
Oui, Gilbert, répéta la reine. Voyons, cherchez, ma chère André. »«
Mais, madame, dit le comte à Marie-Antoinette, si c'est le hasard et que ce nom soit étranger à la comtesse. »«
Non, dit André, non, il n'est point étranger, c'est celui d'un savant homme, d'un habile médecin qui arrive d'Amérique, je crois, et qui s'est lié là-bas avec monsieur de Lafayette. »
« Eh bien ?» demanda le comte.
« Eh bien, répéta André avec un naturel parfait, je ne connais pas personnellement, mais on me dit que c'est un homme fort honorable. »
« Alors, reprit la reine, pourquoi cette émotion, chère comtesse ?»«
Cette émotion ? Ai-je donc été émue ?»«
Oui, on eût dit qu'en prononçant ce nom de Gilbert, vous éprouviez comme une torture. »
C'est possible. Voilà ce qui est arrivé. J'ai rencontré dans le cabinet du roi un homme vêtu de noir, un homme à la figure sévère qui parlait de choses sombres et terribles. Il racontait avec une affreuse réalité les assassinats de monsieur de Launay et de monsieur de Flessel. J'en ai été épouvanté. Je suis tombé en faiblesse, comme vous avez vu. Peut-être alors ai-je parlé, peut-être alors ai-je prononcé le nom de ce monsieur Gilbert.
C'est possible, répéta monsieur de Charny, évidemment disposé à ne pas pousser l'interrogatoire plus avant.
Mais à cette heure, vous êtes rassuré, n'est-ce pas?
Oh, complètement.
Je vais alors vous prier d'une chose, monsieur le comte, dit la reine.
Je suis, madame, aux ordres de votre majesté.
Allez trouver messieurs de Bézenval, de Bourlois et de Lambesque. Dites-leur de faire cantonner leurs troupes dans les positions où elles se trouvent. Le roi verra demain en conseil ce qu'il y a à faire. Le comte s'inclina, mais prêt à sortir, il jeta un dernier regard à André. Ce regard était plein d'affectueuse inquiétude. Il n'échappa point à la reine. « Comtesse, dit-elle, ne rentrez-vous point chez le roi avec moi ?»«
Non, madame, non, dit vivement André. Et pourquoi cela? Je demande la permission à votre majesté de me retirer chez moi. Les émotions que j'ai éprouvées me font ressentir le besoin de repos.
Voyons, comtesse, une soirée franche, dit la reine. Avez-vous eu quelque chose avec sa majesté?
Rien, madame, absolument rien.
Oh, dites-le, si cela est. Le roi ne ménage pas toujours mes amis.
Le roi est, comme d'habitude, plein de bonté pour moi, mais vous aimez autant ne pas le voir, n'est-ce pas?
Ah, décidément, il y a quelque chose là-dessous, comte, dit la reine avec un fin enjouement.
À ce moment, André envoya à la reine un regard si expressif, si suppliant, si plein de révélations, que celle-ci comprit qu'il était temps de terminer cette petite guerre.
« En effet, comtesse, dit-elle, laissons monsieur de Charny faire la commission dont je l'ai chargé et retirez-vous chez vous ou restez ici à votre volonté. »«
Merci, madame, dit André. »«
Allez donc, monsieur de Charny, poursuivit Marie-Antoinette tout en remarquant l'expression de reconnaissance qui se répandait sur la figure d'André. »
Cette expression, le comte ne l'aperçut point ou ne voulut point l'apercevoir. Il prit la main de sa femme et la complimenta sur le retour de ses forces et de ses couleurs. Puis, s'inclinant avec un profond respect devant la reine, il sortit. Mais tout en sortant, il croisa un dernier regard avec Marie-Antoinette. Le regard de la reine disait « Revenez vite !» Celui du comte répondait « Aussi vite que je pourrai !»
Quant à André, elle suivait, la poitrine oppressée, haletante, chacun des mouvements de son mari. Elle semblait accélérer de ses vœux la marche lente et noble qui le rapprochait de la porte. Elle le poussait dehors avec toute la puissance de sa volonté.
Aussi, dès qu'il eut fermé cette porte, dès qu'il eut disparu, toutes les forces qu'avait appelées André à son aide pour faire face à la situation disparurent. Son visage pâlit, ses jambes manquèrent sous elle, et elle tomba dans un fauteuil qui se trouvait à sa portée, tout en essayant de faire ses excuses à la reine pour ce manque d'étiquette. La reine courut à la cheminée, prit un flacon de sel, et le fit respirer à André, qui revint bien plus tôt cette fois encore à elle par la puissance de sa volonté que par l'efficacité des soins qu'elle recevait d'une main royale. En effet, il y avait entre ces deux femmes quelque chose d'étrange. La reine semblait affectionner André, André respectait profondément la reine, et néanmoins, dans certains moments, elle semblait non point une reine affectueuse, non point une servante dévouée, mais deux ennemis. Ainsi, comme nous le disions, cette volonté si puissante d'André lui eut-elle bientôt rendu sa force. Elle se releva, écarta respectueusement la main de la reine, et inclinant la tête devant elle, « Votre Majesté a permis, dit-elle, que je me retirasse dans ma chambre. »«
Oui, sans doute, vous êtes toujours libre, chère comtesse, vous le savez bien, l'étiquette n'est point faite pour vous. Mais avant de vous retirer, n'aviez-vous point quelque chose à me dire ?»«
Moi, madame ?» demanda André.
« Mais sans doute, vous ?»«
Non, à quel propos ?»«
À propos de ce monsieur Gilbert, dont la vue vous a si fort impressionné. »
André tressaillit, mais se contenta de secouer la tête en signe de dénégation.
« En ce cas, je ne vous retiens plus, cher André, vous êtes libre. »
Et la reine fit un pas pour passer dans le boudoir attenant à sa chambre. André, de son côté, après avoir fait à la reine une révérence irréprochable, s'avança vers la porte de sortie. Mais au moment où elle allait l'ouvrir, des pas retentirent dans le corridor et une main se posa sur le bouton extérieur de la porte. En même temps, la voix de Louis XVI se fit entendre, donnant des ordres nocturnes à son valet de chambre.
« Le roi, madame, dit André, en faisant plusieurs pas en arrière. Le roi ?
Bien oui, le roi, dit Marie-Antoinette. Vous fait-il peur à ce point ?
Madame, au nom du ciel, dit André, que je ne vois pas le roi, que je ne me trouve pas en face du roi, ce soir du moins, j'en mourrai de honte.
Mais enfin, vous me direz ?
Tout, tout, si votre majesté l'exige, mais cachez-moi.
Entrez dans mon boudoir, dit Marie-Antoinette, vous en sortirez quand le roi sera sorti lui-même.
Soyez tranquille, votre captivité ne sera pas longue, le roi ne reste jamais bien longtemps ici.
Oh, merci, merci, s'écria la comtesse. Et s'élançant dans le boudoir, elle disparut au moment même où le roi, ouvrant la porte, apparaissait lui-même sur le seuil de la chambre. Le roi entra. La reine, après un coup d'œil donné autour d'elle, reçut le salut de son époux et le lui rendit amicalement. Puis il lui tendit la main. Et à quel bon hasard, demanda Marie-Antoinette, dois-je le plaisir de votre visite? À un vrai hasard, vous dites bien, madame. J'ai rencontré Charny, qui m'a appris qu'il allait, de votre part, dire à tous nos belliqueux de se tenir tranquilles. Cela m'a fait si grand plaisir que vous ayez pris une si belle résolution que je n'ai pas voulu passer devant votre appartement sans vous remercier. Oui, dit la reine, j'ai réfléchi en effet, j'ai pensé que, décidément, mieux valait que vous laissiez les troupes en repos et ne donniez pas prétexte aux guerres intestines. Eh bien, à la bonne heure, dit le roi, je suis enchanté de vous voir de cet avis. Je savais bien d'ailleurs que je vous y ramènerais. Votre majesté voit qu'il n'a pas eu grand-peine à arriver à ce but, puisque c'est en dehors de son influence que je me suis décidé. Bon, cela prouve que vous êtes à peu près raisonnable, et quand je vous aurai communiqué quelques réflexions, vous le saurez tout à fait. Mais si nous sommes du même avis, sire, ces réflexions me paraissent tout à fait inutiles. Oh, soyez tranquille, madame, ce n'est point une discussion que je veux entamer. Vous savez bien que je ne les aime pas plus que vous. Ce sera une conversation. Voyons, est-ce que vous n'êtes pas aise de causer de temps en temps avec moi des affaires de la France, comme deux bons époux font des choses de leur ménage? Ces derniers mots furent prononcés avec cette bonhomie parfaite que Louis XVI avait dans la familiarité. « Oh, sire, au contraire, toujours, répondit la reine, mais le moment est-il bien choisi ?»« Mais je crois que oui. Vous désirez qu'on n'entame pas les hostilités, m'avez-vous dit tout à l'heure, n'est-ce pas ?»« Je vous l'ai dit. Mais vous ne m'avez pas exposé votre raison. Vous ne me l'avez pas demandé. Eh bien, je vous la demande. L'impuissance. » Ah, vous voyez bien, si vous espériez être la plus forte, vous feriez la guerre. Si j'espérais être la plus forte, je brûlerais Paris. Oh, que j'étais bien sûr que vous ne vouliez pas la guerre pour les mêmes motifs que moi. Alors voyons les vôtres. Les miens, demanda le roi. Oui, répondit Marie-Antoinette, les vôtres. Je n'en ai qu'un. Dites-le. Oh, ce sera bientôt fait. Je ne veux pas engager la guerre avec le peuple parce que je trouve que le peuple a raison. Marie-Antoinette fit un mouvement de surprise. Raison, s'écria-t-elle. Le peuple a raison de s'insurger. Mais oui, raison de forcer la Bastille, de tuer le gouverneur, de massacrer le prévôt des marchands, d'exterminer vos soldats. Eh, mon Dieu, oui. Oh, s'écria la reine, voilà vos réflexions, et c'est de ces réflexions-là que vous voulez me faire part. Je vous l'ai dit comme elles me sont venues. En dînant. Bon, dit le roi, voilà que nous allons retomber sur le chapitre de la nourriture. Vous ne pouvez pas me pardonner de manger, vous me voudriez poétique et vaporeux. Que voulez-vous? Dans ma famille, on mange. Non seulement Henri IV mangeait, mais il buvait sec. Le grand et poétique Louis XIV mangeait à en rougir. Le roi Louis XV, pour être sûr de les manger et de les boire bons, faisait ses beignets lui-même et faisait faire son café par Madame du Barry. Moi, que voulez-vous? Quand j'ai faim, je ne puis résister. Il faut alors que j'imite mes aïeux, Louis XV, Louis XIV et Henri IV. Si c'est une nécessité chez moi, soyez indulgente. Si c'est un défaut, pardonnez-le-moi. « Sire, enfin, vous m'avouerez que je ne dois pas manger quand j'ai faim. »« Ah non, » dit le roi en secouant tranquillement la tête. « Je ne vous parle plus de cela, je vous parle du peuple. »« Ah, vous m'avouerez que le peuple a eu tort. »« De s'insurger, mais pas davantage. »« Voyons, passons en revue tous nos ministres. »« Depuis que nous régnons, combien y en a-t-il qui se soient occupés réellement du bonheur du peuple ?»« Deux, Turgot et M. de Necker. » Vous et votre coterie me les avez fait exiler. On a fait pour l'un une émeute, peut-être va-t-on faire pour l'autre une révolution. Bon, parlons des autres un peu. Ah, voilà, des hommes charmants, n'est-ce pas? Monsieur de Maurepas, la créature de mes tantes, un faiseur de chansons. Ce ne sont pas les ministres qui doivent chanter, c'est le peuple. Monsieur de Calonne, il vous a dit un mot charmant, je le sais bien, un mot qui vivra. Un jour que vous veniez pour lui demander je ne sais plus quoi, il vous a dit « Si c'est possible, c'est fait, si c'est impossible, cela se fera ». Ce mot-là a peut-être coûté 100 millions au peuple. Ne vous étonnez donc pas qu'il le trouve un peu moins spirituel que vous ne le trouvez, vous. En vérité, comprenez donc cela, madame. Si je garde tous ceux qui tondent le peuple, si je renvoie tous ceux qui l'aiment, ce n'est pas un moyen de le calmer et de l'affriander à notre gouvernement. Ah, bien, alors c'est un droit que l'insurrection a proclamé ce principe. Allez, en vérité, je suis bien heureuse que vous me disiez de pareilles choses en tête à tête, si l'on vous entendait. « Oh oui, oui, répliqua le roi, vous ne m'apprenez rien de nouveau. Oui, je sais que si vos Polignac, vos Drebrézé, vos Clermont-Tonnerre, vos Coligny m'entendaient, ils hausseraient les épaules en arrière de moi, je le sais bien. Mais ils me font bien autrement pitié, eux, ces Polignac, qui vous grugent et qui vous affichent, à qui vous avez un beau matin donné le comté de Fénestrange qui vous a coûté 1 200 000 livres, votre Sartine, à qui je fais déjà une pension de 89 000 livres et qui vient de recevoir de vous 200 000 livres à titre de secours, le prince de Deux Ponts, à qui vous me forcez d'accorder 945 000 livres pour l'acquittement de ses dettes, madame de Leval, madame de Magnanville, qui touche chacune 80 000 livres de pension, Coigny, qui est comblé de toute façon et qui, un jour où je voulais faire une réduction de ses appointements, m'a pris entre deux portes et m'eût battu, je crois, si je n'avais fait selon son désir. Ce sont vos amis, tous ces gens-là, n'est-ce pas? Eh bien, parlez-en. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose, et vous ne la croirez pas, attendu que c'est une vérité. Si, au lieu d'être à la cour, vos amis eussent été à la Bastille, eh bien, le peuple l'eût fortifié au lieu de la démolir. « Oh !» fit la reine en laissant échapper un mouvement de rage. « Dites tout ce que vous voudrez, c'est comme cela, » répliqua tranquillement Louis XVI. « Votre peuple bien-aimé, eh bien, il n'aura pas longtemps encore sujet de haïr mes ennemis, car ils s'exilent. »« Ils partent ?» s'écria le roi. « Oui, ils partent. »« Polignac, les femmes ?»« Oui. »« Ah, tant mieux !» s'écria le roi, « tant mieux. Dieu soit béni !» Comment, tant mieux, comment, Dieu soit béni, et vous ne la regrettez pas? Oh non, il s'en faut. Manque-t-il d'argent pour leur départ? Je leur en donnerai. Celui-là ne sera pas mal employé, je vous en réponds. Bon voyage, messieurs, bon voyage, mesdames, dit le roi avec un sourire charmant. Oh oui, oui, dit la reine, je conçois que vous approuviez de l'acheter. Voyons, entendons-nous, vous leur rendez donc justice enfin? Ils ne partent pas, s'écria la reine, ils désertent. Peu m'importe, pourvu qu'ils s'éloignent. Et quand on pense que ces infamies, c'est votre famille qui les conseille, ma famille conseille à tous ses favoris de s'en aller, je ne croyais pas ma famille si sage. Et dites-moi, quels sont les membres de ma famille qui me rendent ce service afin que je les remercie? Mais votre tante Adélaïde, votre frère d'Artois? « Mon frère d'Artois, est-ce que vous croyez qu'il suivrait pour son compte le conseil qu'il donne? Est-ce que vous croyez qu'il partirait aussi ?»« Pourquoi pas ?» s'écria Marie-Antoinette, essayant de piquer le roi. « Ah, que le bon Dieu vous entende !» s'écria Louis XVI. « Que monsieur d'Artois s'en aille, et je lui dirai ce que j'ai dit aux autres. Bon voyage, mon frère d'Artois, bon voyage !»« Ah, votre frère !» s'écria Marie-Antoinette. Avec ça qu'il est regrettable, un bon petit garçon qui ne manque ni d'esprit, ni de courage, je le sais bien, mais qui n'a pas de cervelle, qui joue au prince français comme un raffiné du temps de Louis XIII, un brouillon, un imprudent, qui vous compromet, vous, la femme de César? César, murmura la reine avec une sanglante ironie. « Oh, ou Claude, si vous l'aimez mieux, répondit le roi, car vous savez, madame, que Claude était un César, comme Néron. » La reine baissa la tête. Ce sang-froid historique la confondait. « Claude, poursuivit le roi, puisque vous préférez le nom de Claude à celui de César. Claude fut forcé, un soir, vous le savez, de faire fermer la grille de Versailles afin de vous donner une leçon lorsque vous rentriez trop tard. Cette leçon, c'était monsieur le comte d'Artois qui vous l'avalait. Je ne regretterai donc pas monsieur le comte d'Artois. » Quant à ma tante, eh bien, on sait ce qu'on sait sur elle. En voilà encore une qui mérite d'être de la famille des Césars. Mais je ne dis rien, parce qu'elle est ma tante aussi, qu'elle parte et je ne la regretterai pas non plus. C'est comme monsieur de Provence, croyez-vous que je le regrette? Monsieur de Provence part-il? Bon voyage. Oh, lui ne parle pas de s'en aller. Ah, tant pis. Voyez-vous, ma chère, monsieur de Provence sait trop bien le latin pour moi. Il me force de parler anglais pour lui rendre l'appareil. Monsieur de Provence, c'est lui qui nous a mis Beaumarchais sur le dos, en le faisant fourrer à Bicêtre, au Fort-l'Évêque, je ne sais où, de son autorité privée. Et celui-là nous l'a bien rendu aussi, monsieur de Beaumarchais. Ah, il reste monsieur de Provence. Tant pis, tant pis. Savez-vous une chose, madame, c'est que près de vous, je ne connais qu'un honnête homme, monsieur de Charny. La reine rougit et se détourna. Nous parlions de la Bastille, continua le roi, après un court silence. Et vous déploriez qu'elle fût prise? Mais asseyez-vous au moins, sire, répondit la reine, puisque vous paraissez avoir encore beaucoup de choses à me dire. Oh, non merci, j'aime mieux parler en marchant. En marchant, je travaille pour ma santé, dont personne ne s'occupe. Car si je mange bien, je digère mal. Savez-vous ce que l'on dit dans ces moments-ci? On dit « le roi a soupé, le roi dort ». Vous le voyez, vous, comme je dors. Je suis là, tout debout, essayant de digérer en causant politique avec ma femme. Ah, dame, j'expie, j'expie. Et qu'expiez-vous, s'il vous plaît? J'expie les péchés d'un siècle dont je suis le bouc émissaire. J'expie Madame de Pompadour, Madame du Barry, le parc aux cerfs. J'expie ce pauvre Latude, pourrissant pendant 30 ans dans les cachots et s'immortalisant par la souffrance. Encore un qui a fait détester la Bastille. Pauvre garçon. Ah, que j'ai fait de sottises, madame, en laissant passer les sottises des autres. Les philosophes, les économistes, les savants, les gens de lettres, j'ai aidé à persécuter tout cela. Eh, mon Dieu, ces gens-là ne demandaient pas mieux que de m'aimer. S'ils m'eussent aimé, ils eussent fait la gloire et le bonheur de mon règne. Monsieur Rousseau, par exemple, cette bête noire de Sartine et des autres, eh bien, je l'ai vu un jour, moi, le jour où vous l'avez fait venir à Trianon, vous savez bien. Il avait les habits mal brossés, c'est vrai, la barbe longue, c'est encore vrai, mais au demeurant, c'était un brave homme. Si j'eusse mis mon gros habit gris, mes bras drapés, et que j'eusse dit à monsieur de Rousseau, « Allons-nous-en chercher des mousses dans les bois de Villavray ?»« Eh bien quoi ?» interrompit la reine avec un suprême mépris. « Eh bien, monsieur Rousseau n'eût pas écrit le vicaire savoyard et le contrat social. » Oui, oui, je le sais bien, voilà comme vous raisonnez, dit Marie-Antoinette, voilà, vous êtes un homme prudent, vous craignez votre peuple comme le chien craint son maître. Non, mais comme le maître craint son chien, c'est quelque chose que de savoir qu'on ne sera pas mordu par son chien. Madame, quand je me promène avec Médor, le molosse des Pyrénées que m'a donné le roi d'Espagne, je suis tout fier de son amitié. Riez si vous voulez, il n'en est pas moins vrai que Médor, s'il n'était pas mon ami, me mangerait avec ses grosses dents blanches. Eh bien, je lui dis « petit Médor, bon Médor », et il me lèche. J'aime mieux la langue que les crocs. Soit, flattez les révolutionnaires, caressez-les, jetez-leur du gâteau. Eh, ainsi ferai-je, je n'ai pas d'autre dessein, je vous prie de le croire. Oui, c'est décidé, je vais amasser un peu d'argent, et je traiterai tous ces messieurs comme des cerbères. Et, tenez, monsieur de Mirabeau. Ah oui, parlez-moi de cette bête féroce. Avec 50 000 livres par mois, ce sera un Médor, tandis que si nous attendons, il y faudra peut-être 500 000 par mois. La reine se mit à rire de pitié. Oh, « Flattée de pareils gens !» dit-elle. « Monsieur Bailly, continua le roi, monsieur Bailly, devenant ministre des Arts, c'est un ministère que je m'amuserai à créer. Monsieur Bailly sera un autre Médor. Pardon de ne pas être de votre avis, madame, mais je suis de l'avis de mon aïeul Henri IV. C'était un politique qui en valait bien un autre, et je me rappelle ce qu'il disait. » « Que disait-il ? On ne prend pas les mouches avec du vinaigre. » Sancho disait aussi cela, ou quelque chose d'approchant. Mais Sancho eût rendu le peuple de Barataria fort heureux, si Barataria eût existé. Sire, votre aïeul Henri IV que vous invoquez prenait les loups aussi bien que les mouches, témoin le maréchal de Biron, à qui il a fait couper le cou. Il pouvait donc dire tout ce qui lui plaisait. En raisonnant comme lui et en agissant comme vous faites, vous ôtez tout prestige à la royauté, qui ne vit que de prestige. Vous dégradez ce principe. Que deviendra la majesté ? La majesté, c'est un mot, je le sais bien, mais dans ce mot tiennent toutes les vertus royales. Qui respecte, aime, qui aime, obéit. Ah, parlons-en de la majesté, interrompit le roi avec un sourire. Oui, parlons-en. Vous, par exemple, vous êtes aussi majestueuse que qui que ce soit. Je ne connais personne en Europe, pas même votre mère Marie-Thérèse, qui ait poussé aussi loin que vous la science de la majesté. Je comprends. Vous voulez dire, n'est-ce pas, que la majesté n'empêche point que je sois abhorré du peuple français? Je ne dis pas abhorré, ma chère Antoinette, dit le roi avec douceur, mais enfin, vous n'êtes peut-être pas aussi aimée que vous méritez de l'être. « Monsieur, répliqua la reine, profondément blessée, vous vous faites l'écho de tout ce qui se dit. Je n'ai fait de mal à personne, cependant, du bien au contraire, souvent j'en ai fait. Pourquoi me haïrait-on, comme vous dites? Pourquoi ne m'aimerait-on pas? N'était qu'il y a des gens occupés, toute la journée à répéter, « La reine n'est pas aimée. » Savez-vous bien, monsieur, qu'il suffit d'une voix qui dise cela pour que 100 voix le répètent, 100 voix en font éclore 10 000, alors, d'après ces 10 000 voix, tout le monde répète, « La reine n'est pas aimée. » Et l'on n'aime pas la reine uniquement parce qu'une personne a dit, « La reine n'est pas aimée. » « Eh, mon Dieu !» murmura le roi. « Eh, mon Dieu !» interrompit la reine, « je tiens fort peu à la popularité, mais je crois aussi qu'on exagère mon impopularité. Les louanges ne pleuvent pas sur moi, c'est vrai, mais enfin, on m'a adoré, et pour m'avoir trop adoré, voilà qu'il se trouve qu'on me hait trop. « Tenez, madame, dit le roi, vous ne savez pas toute la vérité, et vous vous illusionnez encore. Nous parlions de la Bastille, n'est-ce pas ?»«
Oui. »
Eh bien, il y avait à la Bastille une grande chambre pleine de toutes sortes de livres écrits contre vous. Je suppose qu'on aura brûlé tout cela. Et que me reprochait-on dans ces livres? Ah, vous comprenez bien, madame, que je ne me fais pas plus votre accusateur que je ne voudrais être votre juge. Quand tous ces pamphlets-là paraissent, je fais saisir toute l'édition et engouffrer le tout à la Bastille. Mais quelquefois, ces libelles me tombent à moi-même dans les mains. Ainsi, par exemple, dit le roi, en frappant sur la poche de son habit, « J'en ai un là, il est abominable. »« Montrez-le-moi !» s'écria la reine. « Je ne peux pas, dit le roi, il y a des gravures. » « Et vous en êtes là, dit-elle, vous en êtes à ce point d'aveuglement, de faiblesse, que vous ne cherchiez point à remonter à source de toutes ces infamies ?» Mais on ne fait que cela, remonter aux sources, tous mes lieutenants de police y ont blanchi. Alors vous connaissez l'auteur de ces indignités. J'en connais au moins un, l'auteur de celui-là, monsieur Furs, puisque voilà un reçu de 22 500 livres de lui, quand cela vaut la peine, vous voyez, je ne regarde pas au prix, mais... Les autres. Ah, souvent, ce sont de pauvres diables d'affamés qui végètent en Angleterre ou en Hollande. On est mordu, on est piqué, on s'irrite, on cherche. On croit qu'on va trouver un crocodile ou un serpent, le tuer, l'écraser. Pas du tout. On ne trouve qu'un insecte si petit, si bas, si sale, qu'on n'ose point y toucher, même pour punir. Ah, à merveille, mais si vous n'osez pas toucher aux insectes, accusez en face celui qui les fait naître. En vérité, on dirait que Philippe d'Orléans est le soleil. Ah, s'écria le roi en frappant ses mains l'une contre l'autre. Ah, nous y voilà, monsieur d'Orléans. Allez, allez chercher à me brouiller avec lui. Vous brouillez avec votre ennemi, sire. Ah, le mot est joli. Le roi haussa les épaules. « Voilà, dit-il, voilà le système des interprétations. Monsieur d'Orléans, vous attaquez Monsieur d'Orléans qui vient se mettre à mes ordres pour combattre les révoltés, et qui quitte Paris et qui accourt à Versailles. Monsieur d'Orléans est mon ennemi. Ah, vraiment, madame, vous avez contre les d'Orléans une haine inconcevable. » Oh, il est venu. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il a peur que son absence ne soit remarquée au milieu de l'empressement général. Il est venu parce qu'il est un lâche. Bien, nous allons recommencer, dit le roi. C'est un lâche qui a inventé cela. Vous qui avez fait écrire cela dans les gazettes qu'il avait eu peur à Ouessant, vous l'avez voulu déshonorer. Eh bien, c'était une calomnie, madame. Philippe n'a pas eu peur. Philippe n'a pas fui. S'il avait fui, il ne serait pas de la famille. Les d'Orléans sont braves, c'est connu. Le chef de la famille, qui avait plus l'air de descendre de Henri III que de Henri IV, était brave, malgré son défi et son chevalier de Lorraine. Il avait bravé la mort à la bataille de Cassel. Le régent avait bien quelques petites choses à se reprocher du côté des mœurs, mais il s'était battu à Steinkerk, à Neerwinden, à Almanza, comme le dernier soldat de son armée. Ne disons que la moitié du bien qui existe, si vous le voulez, madame, mais ne disons point le mal qui n'existe pas. Votre Majesté est en train de blanchir tous les révolutionnaires. Vous verrez tout ce que vaudra celui-là. Oh, si je regrette la Bastille, c'est pour lui. Oui, je me repens qu'on y ait mis des criminels quand celui-là n'y était pas. Eh bien, s'il eût été à la Bastille, monsieur d'Orléans, nous serions aujourd'hui dans une belle situation, dit le roi. Que fut-il arrivé? Voyons. Eh, vous n'êtes pas sans savoir, madame, que l'on a promené son buste couronné de fleurs avec celui de monsieur de Necker. Oui, je le sais. Eh bien, une fois hors de la France, monsieur d'Orléans eût été roi de France, madame. Et peut-être auriez-vous trouvé cela juste, dit Marie-Antoinette avec une amère ironie. Ma foi, oui, haussez les épaules tant qu'il vous plaira. Pour bien juger les autres, je me mets à leur point de vue, moi. Ce n'est pas du haut du trône qu'on voit bien le peuple. Moi, je descends jusqu'à lui. Et je me demande si, bourgeois ou manant, j'eusse supporté qu'un seigneur me comptât parmi ses poulets ou ses vaches comme un produit, si, cultivateur, j'eusse supporté que les 10 000 pigeons d'un seigneur mangeassent chaque jour 10 grains de blé, d'avoine ou de raisin, c'est-à-dire 2 boisseaux environ, le plus clair de mon bénéfice, tandis que ces lièvres et ces lapins broutaient mes luzernes, tandis que ces sangliers retournaient mes pommes de terre, tandis que ses percepteurs dîmaient mon bien, tandis que lui-même caressait ma femme et mes filles, tandis que le roi m'enlevait mes fils pour la guerre, tandis que le clergé damnait mon âme dans ses moments de colère. « Allons, allons, monsieur, interrompit la reine avec un regard foudroyant, prenez une pioche et allez aider à la démolition de la Bastille. » Ah, vous croyez rire, répondit le roi. Eh bien, j'irai, sur ma parole, s'il n'était ridicule qu'un roi prît la pioche lorsque, d'un seul trait de plume, il peut faire le même ouvrage. Oui, je prendrai la pioche et l'on m'applaudirait comme j'applaudis à ceux qui peuvent accomplir cette besogne. Ils me rendent un fameux service, allez, madame, ceux qui me démolissent la Bastille, et ils vous en rendent un bien plus grand à vous, madame. Oui, à vous, qui ne pouvez plus faire jeter, selon les caprices de vos amis, les honnêtes gens dans un cachot. Les honnêtes gens à la Bastille, moi, j'ai fait mettre ces honnêtes gens-là, c'est peut-être monsieur de Rohan qui est un honnête homme. Oh, ne me parlez plus de celui-là, que je n'en parle pas moi-même. La chose ne nous a pas réussi de l'y mettre, puisque le Parlement l'en a fait sortir. D'ailleurs, ce n'était point la place d'un prince de l'Église, puisqu'aujourd'hui on met les faussaires à la Bastille. En vérité, je vous le demande, des faussaires et des voleurs, qu'ont-ils à faire là? N'ai-je point à Paris des prisons qui me coûtent fort cher pour entretenir ces malheureux-là? Encore passent les faussaires et les voleurs, mais le pire est qu'on y mettait les honnêtes gens. Les honnêtes gens? Et sans doute, j'en ai vu un aujourd'hui, un honnête homme qui a été enfermé et qui en est sorti il n'y a pas longtemps. Quand cela? Ce matin. Vous avez vu ce soir un homme qui est sorti ce matin de la Bastille? Je le quitte. Qui cela? Dame, quelqu'un de votre connaissance? De ma connaissance à moi? Oui. Et comment appelez-vous ce quelqu'un? Le docteur Gilbert. Gilbert? Gilbert? S'écria la reine. Quoi? Celui qu'André a nommé en revenant à elle? Précisément, ce doit être celui-là, j'en jurerais de moins. Cet homme a été à la Bastille? En vérité, on dirait que vous l'ignorez, madame. Je l'ignore tout à fait. Et la reine, apercevant sur le visage du roi une expression d'étonnement, à moins, dit-elle, que quelques raisons que j'ai oubliées. Ah, voilà, s'écria le roi, il y a toujours à ces injustices une raison que l'on a oubliée. Mais si vous avez oublié, et cette raison et le docteur, madame de Charny n'a oublié ni l'un ni l'autre, je vous en réponds. Sûr, sûr, s'écria Marie-Antoinette. Il faut qu'il se soit passé entre eux des choses, continua le roi.
Sire, de grâce, fit la reine, en regardant avec anxiété du côté du boudoir, d'où André, caché, pouvait entendre tout ce que l'on disait.
Ah oui, dit le roi en riant, vous craignez que Charny ne vienne et ne s'instruise. Ah, pauvre Charny!
Sire, je vous en supplie, Madame de Charny est une femme pleine de vertu, et j'aime mieux croire, je vous l'avoue, que ce monsieur Gilbert...
Bah, interrompit le roi, accusez-vous cet honnête garçon,
je sais ce que je sais, et ce qu'il y a de pis, c'est que, sachant beaucoup de choses, je ne sais pas encore tout.
En vérité, vous me glacez avec votre assurance, dit la reine, en regardant toujours du côté du cabinet.
« Oh, mais, continua Louis XVI, je suis tranquille, je ne perdrai rien pour attendre. Le commencement me promet une fin agréable, et cette fin, je la saurai de Gilbert lui-même, à présent, qu'il est mon médecin. »«
Votre médecin? Cet homme-là est votre médecin? Vous confiez au premier venu la vie de roi ?»«
Oh, répliqua froidement le roi, j'ai confiance en mon coup d'œil, et j'ai lu, je vous en réponds, dans l'âme de celui-là. »
La reine laissa échapper un frémissement de colère et de dédain.
« Haussez les épaules tant qu'il vous plaira, dit le roi. Vous ne ferez pas que Gilbert ne soit un savant homme. »
« Engouement.
Je voudrais bien vous voir à ma place. Je voudrais bien savoir si M. Mesmer n'a pas fait sur vous et sur Mme de Lamballe une impression quelconque. »
« Monsieur Mesmer, fit la reine en rougissant,
oui, quand il y a 4 ans à vous alate déguisé à l'une de ces séances.
Oh, ma police est bien faite, allez, je sais tout, moi. »
Et le roi, tout en prononçant ces paroles, sourit affectueusement à Marie-Antoinette.
« Vous savez tout, sire, dit la reine, alors vous êtes bien dissimulé, puisque jamais vous ne m'avez parlé de cela. »
À quoi bon, les voix des nouvellistes et des gazetiers vous avaient suffisamment reproché cette petite imprudence,
mais j'en reviens à Gilbert et à Mesmer à la fois. Monsieur Mesmer vous plaçait autour d'un baquet, vous touchait avec une verge d'acier, s'entourait de 1000 fantasmagories comme un charlatan qu'il était. Gilbert, lui, ne fait pas tant de façons. Il étend la main sur une femme et à l'instant elle dort, et endormie, elle parle.
« Elle parle ?» murmura la reine avec épouvante.
« Oui, répliqua le roi, qui ne dédaignait point de prolonger la petite souffrance de sa femme.
« Oui, endormie par Gilbert, elle parle, et croyez-moi, les choses qu'elle dit sont fort étranges. »
La reine pâlit. « Madame de Charny aurait dit des choses fort étranges » murmura-t-elle.
« Au dernier point, ajouta le roi, il est même bien heureux pour elle. »
« Chut, chut, interrompit Marie-Antoinette.
Pourquoi chut? Je dis qu'il est même bien heureux pour elle que seul je l'ai entendu dans son sommeil.
Oh, par grâce, sire, pas un mot de plus.
Je le veux bien, car je tombe de fatigue. De même que je mange quand j'ai faim, je me couche quand j'ai envie de dormir.
Bonsoir donc, madame, que toute notre conversation... vous laisse une impression salutaire.
Laquelle, sire?
Le peuple a eu raison de défaire ce que nous et nos amis nous avons fait.
Témoin, mon pauvre médecin Gilbert.
Adieu, madame. Croyez qu'après avoir signalé le mal, j'aurai le courage de l'empêcher.
Dormez bien, Antoinette.
Et le roi se dirigea vers la porte de sa chambre.
À vos propos, dit-il en revenant sur ses pas, prévenez Madame de Charny qu'elle ait à faire sa paix avec le docteur, si toutefois il est temps encore.
Adieu.
Et il s'éloigna lentement, en fermant lui-même les portes avec la satisfaction du mécanicien qui s'en jouait sous ses doigts de bonne serrure. Le roi n'avait pas fait 10 pas dans le corridor que la comtesse sortit du cabinet, courut aux portes et en poussa les verrous et tira les rideaux. Tout cela vivement, violemment, avec l'énergie de la démence et de la rage.
Puis, s'étant assurée que nul ne pouvait voir ni entendre, elle revint vers la reine avec un sanglot déchirant et tomba sur ses 2 genoux en s'écriant
« Sauvez-moi, madame, au nom du ciel, sauvez-moi !»
Puis, après une pause suivie d'un soupir, « Et je vous dirai tout », ajouta-t-elle.
Fin du tome 1er.